Amis auditeurs, bonjour et très bonne année à vous tous. Bienvenue sur nos ondes locales, où nous sommes ravis de vous proposer un nouveau voyage dans le passé. Bonne année Rémi.
Bonjour et bonne année Gilliane. Meilleurs vœux à tous. En ce début d'année, nous poursuivons nos balades bressanes, quittant Bourg pour nous arrêter à Perona.
Cette commune était autrefois une paroisse un peu démunie à la périphérie de Bourg. En deux siècles, elle a connu un développement exponentiel et son territoire est aujourd'hui fortement urbanisé.
Des travaux se poursuivent pour l'embellir encore.
En effet, et Christian Zimmermann nous accompagne dans notre balade avec quelques notes de la ballade numéro 3 de Chopin.
Nous sommes à Perona, à quelques pas de Bourg-en-Bresse, pour évoquer le passé de cette commune. Elle a déjà une position particulière.
Un pied en Bresse, un pied en Dombes. Perona est sur la ligne de séparation de ces deux régions naturelles. Sur la commune, au siècle dernier, les impositions agricoles étaient différentes sur les terres classées en Bresse et celles classées en Dombes, moins productives.
Comment expliquer cette différence entre Bresse et Dombes ?
Par la géologie. Lors de la dernière glaciation, de 100 000 à 12 000 ans avant notre ère, le glacier alpin s'est étendu sur la Dombes et il a déposé des matériaux qui expliquent la différence entre les sols des deux contrées. Perona porte ce passé géologique.
La commune a aussi deux aspects que sépare la forêt de Seillon, plus qu'un millénaire. Commençons par la partie est.
Par la seigneurie d'Ussé. Elle date du Moyen-Âge. Son représentant le plus connu est l'érudit Antoine d'Ussé, né en 1504 ou 1505, connu pour ses ouvrages « L'Esperon de discipline » ou « Le blason de Brou » et pour avoir prononcé l'éloge funèbre de Marguerite d'Autriche en 1532. Il est aussi abbé de Chézé et, à Bourg, commandeur de la confrérie de Saint-Antoine. C'est un personnage important et est reconnu comme tel.
Cette famille a accordé des droits d'usage en forêt de Seillon à des moines.
Un prieuré de bénédictins s'installe en bordure de la forêt et ses religieux adoptent la règle de Saint-Bruno vers 1178. Ils deviennent donc des chartreux et ils bénéficient des bienfaits de la noblesse locale. La chartreuse subit encore les affres de la conquête française effective en 1601. Elle se reconstitue et devient l'une des plus florissantes de l'ordre. La Révolution accapare ses biens et chasse définitivement les moines.
Les bâtiments délaissés retrouvent une nouvelle vie en 1859.
Au moment où Alfred de la Bâtie et des notables lyonnais fondent l'orphelinat, le placent sous la protection de saint Isidore, le saint patron des laboureurs, et confient la direction à l'abbé Griffon. L'orphelinat ouvre le 1er mars 1860 sous l'appellation des Providences agricoles de Notre-Dame de Seillon. Il accueille des orphelins et les forme à des métiers de la terre jusqu'à leurs 18 ans.
Seillon devient une grande ferme.
Grâce à des bienfaiteurs, Seillon peut s'agrandir en surface et devenir une importante ferme. Les photographies parues dans les dernières chroniques de Bresse montrent la diversité des activités agricoles et d'élevage de Seillon jusqu'au début des années 1960. Ensuite, Seillon se transforme, mais accueille toujours des enfants en difficulté.
Montons la côte de Seillon pour nous arrêter à la propriété de la Bécassinière.
Pour évoquer l'écrivain Paul Marieton, qui écrivait dans la langue de Frédéric Mistral, c'est-à-dire le provençal. Il a fait partie du Félibrige, cette association qui souhaitait redonner à la Languedoc sa grandeur du temps des troubadours. Frédéric Mistral a été reçu plusieurs fois à Perona. Et Paul Marieton a aujourd'hui son buste près d'un square dans la ville d'Orange, et ce depuis 1914.
Cette Bécassinière a été construite par François Barthélémy Arlès Dufour, un des Lyonnais qui ont permis à Victoire Daubier de passer le premier baccalauréat, devenant ainsi la première bachelière de France. Si nous nous déplaçons de quelques pas, nous arrivons dans un autre château, entre guillemets.
c'est la propriété occupée depuis 1840 par la famille Chambaud, qui a donné plusieurs maires à la commune. C'est d'abord une grande ferme que François-Eugène, de seconde génération, a vraiment fait prospérer au point de devenir une ferme de référence en Bresse et d'obtenir la prime d'honneur qui récompense l'exploitation la mieux gérée au concours régional de 1867.
La ferme a aussi une autre activité.
Une tuilerie. Cette fabrique a toujours existé. Et François-Eugène Chambaud lui donne une impulsion en installant une machine anglaise pour satisfaire une commande de drain. Lui-même utilise ses drains pour assainir ses terres d'étang, car la pisciculture dombiste n'a plus d'avenir avec l'arrivée du chemin de fer qui apporte, en quelques heures, les produits de la mer. Cette fabrique se transforme ensuite en une grande tuilerie briqueterie mécanique, selon la publicité, pour satisfaire les demandes du bâtiment en pleine expansion.
Cette tuilerie n'est plus active.
Eh non. Elle a cessé ses activités en 1986. Pierre Chambaud a bien essayé de lui donner plus ampleur par des rachats d'autres tuileries. Mais la matière première s'est tarie à Pérouna. Et la tuilerie est alors handicapée par les surcoûts de l'approvisionnement en terre.
Nous quittons les extérieurs de Pérouna pour arriver au centre de la cité. En réalité, ce centre tarde à se constituer.
À l'origine, il y a l'église, qui domine un vallon à l'écart de la grande route. Elle est dédiée à Saint Eusèbe, un évêque présent au concile de Nicée en 325, dont l'église catholique célèbre en 2025, le 1700e anniversaire. Saint Eusèbe a lutté pour le respect de la doctrine officielle de l'église.
Et de quand date cette église ?
Elle est mentionnée pour la première fois en 1106 et elle dépendait de l'abbaye de Tournu. Elle est de style roman-bourguignon et les visites pastorales signalent des chapelles dotées par les seigneurs locaux. Elle était le centre de vie de la communauté et on lisait les ordonnances royales à la messe dominicale. Elle a servi de lieu de réunion pour la rédaction du cahier de doléances de Pérouna en vue des états généraux de mai 1789.
Puis l'église a subi diverses modifications.
Comme pour les autres églises, son clocher a été décapité sous la Révolution. Ensuite, il a fallu restaurer sommairement le bâtiment et monter un clocher de bois pour qu'un curé soit affecté à la paroisse en 1837. Avant cette nomination, c'était le curé de Saint-Rémy qui officiait essentiellement pour les enterrements.
Elle a subi ensuite de grosses restaurations.
D'abord en 1859-1860, où l'on a percé de grandes baies. Une abside a été ajoutée. Ensuite, en 1960, le clocher a été remplacé par un campanile, la charpente a été dégagée, l'enduit des murs a été retiré tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, des vitraux en pâte de verre ont été placés dans l'abside. Une restauration avec un retour à une certaine sobriété voulu par le concile de Vatican II. Un abri, récemment installé, prolonge l'église et le cimetière a été réaménagé pour dégager le chemin d'accès à l'église.
Le village ne s'est pas construit autour de cette église.
Eh non. À la mise en place de la commune, le conseil municipal se réunissait dans une salle du presbytère tout proche, mais il fallait traverser l'appartement du curé pour y accéder. Ce n'est que plus tard qu'une porte donnant sur l'extérieur a été percée. La plupart des actes municipaux se faisaient au domicile du maire.
Et pour l'école ?
La congrégation des Sœurs de Saint-Joseph a ouvert une école de filles en 1848, chemin de l'église. Longtemps, la commune a prétexté sa proximité avec Bourg pour ne pas construire d'école. Et elle y a été contrainte sous le Second Empire et elle a choisi le hameau de la Croix sur un terrain qu'elle possédait en partie.
La gare de Bourg se développe et fait grossir la population de Pérouna.
Et il faut une école de filles. L'école libre est trop exiguë. Et la commune ne peut agrandir un bâtiment privé. Il faut construire une école.
Où sera-t-elle implantée ?
Le long de la route nationale, un peu au milieu de nulle part. Le bâtiment est terminé en 1883 et il porte toujours, en 2026, un écriteau de marbre où il est écrit « École de filles ». Mais il est trop beau pour des demoiselles. Alors, elles sont reléguées à l'école du hameau de la Croix pour être remplacées par les garçons.
Curieuse attitude.
En effet, La situation dure jusqu'en 1903, où il y a un regroupement général dans ce bâtiment agrandi. Les classes et les cours sont bien sûr séparés. Un local sera aussi ajouté pour le secrétariat de mairie.
Et le nouveau Perona se construit autour de ce bâtiment.
Là, oui, et sur le long terme. À la Révolution, Perona comptait environ 300 habitants, et déjà plus de 1000 en 1900, et 1500 après-hier. Des cafés s'installent en face et à proximité. L'un vend divers produits, et un autre un jeu de quilles. La circulation augmente, et les platanes qui bordent la route nationale sont retirées. La commune compte encore une quarantaine d'exploitations agricoles.
Le développement de Perona se fait durant cette après-guerre.
Plutôt à partir des années 1970. La commune se dote d'un collège en 1972. Il est d'ailleurs en cours de restructuration. Des bâtiments d'habitation sont élevés, des lotissements se développent. La population s'agrandit et les équipements doivent s'adapter. Une nouvelle école et une salle polyvalente sont construites. Puis un complexe sportif. Des activités culturelles et des clubs sportifs se créent, comme le tennis club qui fêtera son cinquantenaire en 2026.
Signe des temps, un premier feu tricolore est installé en 1976.
Perona a pris une autre dimension et compte déjà plus de 3000 habitants en 1975. Son développement se poursuit, mais la commune se résume à une longue ligne droite, monotone. Un carrefour est créé au niveau de la mairie et, à partir des années 1990, la commune se développe à l'ouest pour accueillir de nouveaux bâtiments, des banques et des équipements destinés à la population âgée.
Des travaux se poursuivent aujourd'hui pour une cité de plus de 6000 habitants.
La route centrale est réaménagée pour laisser de la place à des arbres et à une piste cyclable. Des bâtiments sont construits avec, au rez-de-chaussée, des locaux pour des commerces. Perona veut se donner une image plus citoyenne avec davantage d'espace.
Nous y habitons tous les deux.
Eh oui, depuis des décennies. Et nos enfants y ont grandi. Nous terminons en rappelant, Rémi, que vous avez écrit en 2018 le livre « Perona, hier et aujourd'hui », édité par les Chroniques de Bresse, est toujours disponible à la vente. Nous remercions Jimmy à la technique et nous nous quittons avec une image de bonheur partagé, celle de Maxime le Forestier et sa chanson « San Francisco ». Au revoir à tous.
Au revoir.
C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera ta mala guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. San Francisco s'effondre. San Francisco s'effondre. San Francisco. Où êtes-vous? Lisez les Lucs. Sylvia, attendez-moi.